Bonjour, ici Raymond Beaugrand-Champagne. Et Rencontres spirituelles aujourd'hui nous permet de rencontrer justement trois grands spirituels, deux femmes, un homme, et la première des femmes, très très connue mondialement par son nom, mais pas par sa vie. C'est Sainte Rita. Sainte Rita, qui est extrêmement populaire, d'abord en Italie, dans les pays de langue latine, mais aussi en France. Et je crois aussi, ici à Montréal, il y a beaucoup de gens très dévots au Québec à l'égard de Sainte Rita. C'est qu'elle est considérée comme une intermédiaire entre Dieu et nous, quelqu'un qui peut nous obtenir des faveurs. Alors, ces saints-là sont très populaires, hein? Mais c'est dommage qu'elle ne soit pas plus populaire pour sa vie, car c'est une vie qui peut intéresser beaucoup de gens. Elle est née, il y a bien longtemps, elle est née en Ombrie, en Italie, dans une petite ville, la petite ville de Cascia. C'est pour ça qu'elle porte le nom de Sainte Rita de Cascia. Cascia, ça s'écrit C-A-S-C-I-A. Elle habitait là vers le milieu du 14e siècle, c'est-à-dire 1360-70. Ses parents étaient de bons chrétiens, qui étaient près de Dieu, puis ils étaient vraiment estimés par tout le monde. C'étaient de bons parents, et qui aimaient à maintenir la concorde autour d'eux. Ils étaient réputés pour ça. Ils avaient aucun enfant, ils étaient avancés en âge, et en 1381, c'est à ce moment-là, donc au 14e siècle, que leurs prières furent enfin exaucées, puis ils ont obtenu de mettre au monde une fille. Ils ont appelé Marguerite. C'est dire que le nom de Rita est un diminutif de Marguerite. Hein? Margarita, Rita. C'est comme ça qu'on la connaît même dans officiellement dans l'Église, dans le martyrologe. On la connaît sous son diminutif. C'est très rare qu'un saint est connu sous son diminutif. C'est le cas de Sainte Rita. Et à l'âge de 12 ans, elle a senti au fond de son cœur, comme beaucoup d'enfants à travers l'histoire, hein, c'est pas nouveau, ça se sent encore aujourd'hui. À 12 ans, elle a senti ce désir de se consacrer à Dieu. J'entendais moi-même mon petit-fils de 10 ans me dire il y a quelques mois, « Grand-papa, j'ai un secret à te dire, je vais devenir prêtre. » Vous savez, ces désirs naissent et disparaissent, mais souvent, quand ils sont bien entretenus, l'enfant peut persévérer et devenir vraiment quelqu'un de remarquable, hein. Et ses parents qui ont été touchés par cet appel ont hésité. Ils étaient craintifs. Ils étaient âgés puis ils se disaient, si ça réussit pas, elle va être seule. Alors ils ont décidé de la marier. Et à cette époque, comme il n'y a pas très longtemps, les parents décidaient de marier leurs enfants et l'enfant obéissait. Alors ils ont choisi ce qui leur semblait être un bon parti. Quelqu'un qui s'appelait Paul de Ferdinand. C'était un fort beau gars, dit-on. Il était magnifiquement beau, il était sympathique, et il avait de grandes qualités, il était même d'une famille assez à l'aise. C'était un très bon parti pour leur fille. Mais après le mariage, comme ça arrive dans certains cas comme ça, il s'est révélé être d'un caractère brutal. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui un batteur de femmes, quoi. Quelqu'un que... qui est bien difficile à endurer, c'est pas les... il n'y a plus de femme, au fond, qui endure ça, ou du moins, je l'espère. Mais Rita, elle, animée par toujours cette foi chrétienne, a décidé d'endurer ces rudesses de son mari pendant 18 ans. Il faut être décidé. Jamais elle ne lui donna l'occasion de se plaindre. Jamais, jamais, jamais ne s'est plainte une fois, paraît-il, disait-il, parce que lui, voyant sa femme aussi bonne, il n'a pas pu continuer à être brutal à son égard et continuer à être d'une conduite idiote parce qu'il la trompait. Et il s'est converti, il est revenu à Dieu d'une façon profondément sincère. Et les violences de cet homme se sont arrêtées. Et chose étrange, ses anciens amis se sont fâchés contre lui Il s'est fait des ennemis, finalement, probablement parce qu'il ne voulait plus participer à certains jeux ou à certaines choses. Ils étaient jeunes. Hein. Alors, ses amis, un jour, groupés autour d'ennemis, l'ont massacré sans pitié. Et elle l'a pleuré, son mari. Hein. Sainte Rita a vraiment pleuré son mari. Elle était jeune veuve. Mais elle a pardonné, vraiment pardonné au meurtrier de son mari. Et elle a tout fait pour que les deux jumeaux qu'elle avait mis au monde, qui étaient des adolescents, participent à cette espèce de pardon étrange qui stupéfiait beaucoup de gens dans l'ombrie de cette époque, dans l'Italie. Un peu comme ici, aujourd'hui, ses parents, dont je vous ai parlé déjà, ses parents qui ont su pardonner au meurtrier de leur fille qui avait traversé le pont Jacques-Cartier et qui avait leur fille, petite fille de 15 ans, qui avait été jetée, je crois, 15 ans, dans le fleuve Saint-Laurent avec un jeune compagnon qu'elle avait. Après, en revenant de la ronde, on a vu ça, il y a un film qui a été fait là-dessus, qui a fait le tour du monde, et qui est très très beau d'ailleurs, un documentaire. Or, ce pardon extraordinaire, elle a pu réussir à convaincre ses fils de pardonner eux aussi, mais c'était pas sûr. Hein. Et elle craignait pour ses fils. Et finalement, chose étrange, l'un après l'autre sont tombés malades et sont morts. Alors elle était dégagée, veuve de son mari, dégagée de ses deux fils, qu'elle a pleuré aussi. Et alors elle n'avait plus rien qui la retenait dans le monde et elle a décidé d'entrer dans un monastère. C'était un rêve qu'elle caressait depuis sa plus tendre enfance. Alors elle est allée frapper à la porte du monastère des religieuses augustines, les augustines. Comme on a des augustines hospitalières à Québec, n'est-ce pas, à l'Hôtel Dieu. Alors ce sont des augustines cloîtrées et qui vivaient là à Cachia, dans la même ville. Mais elle fut refusée. Parce que, c'est un peu gênant de dire ça, mais c'était l'usage à l'époque chez ces sœurs-là. On n'acceptait que des vierges. C'est un peu curieux. Hein? Faut dire que pas longtemps après, dans l'église, s'est fondée les Visitandines par sainte Jeanne de Chantal, la grande amie de cœur, si on peut dire, de saint François de Sales. Et sainte Jeanne de Chantal cherchait justement des femmes qui n'étaient pas vierges, c'est-à-dire des femmes assez âgées, des veuves. Elle avait fondé les Visitandines dans ce but-là. Alors, de retour à sa maison, à Cachia, elle s'était donnée à la prière, Sainte Rita, à la pénitence, avec une grande ferveur. Et on raconte. Est-ce une légende? Est-ce vrai? On le raconte comme étant vrai. Bon, on en fera ce qu'on voudra. On raconte que trois saints lui sont apparus. Saint Jean-Baptiste, dont elle admirait la grande humilité, le grand saint Augustin, patron des moniales de Cachia, puisque ce sont des Augustines, je vous le rappelle, et le fameux saint Nicolas de Tolentino, qui était un religieux augustin aussi, de l'ordre de saint Augustin. Et ces trois saints lui ont apparu une nuit et ont répondu à son appel. Ils l'ont conduite, dit-on, par des chemins qui l'ont surprise jusqu'à la porte du monastère où on n'avait pas voulu la recevoir. Et là, on prétend que malgré les verrous et les barres de fer, ils l'ont fait entrer. Ils sont disparus. Quand les religieuses, au matin, se sont rendues compte qu'elle était à l'intérieur du monastère sans que personne lui ait ouvert la porte, on a décidé de l'accepter quand même si elle n'était pas vierge, même si elle était veuve. Elle avait eu deux jumeaux. Et ils l'ont gardé dans le monastère, puis lui ont fait une place, mais ils hésitaient beaucoup. Et alors, elle s'est mise aussitôt à l'œuvre pour leur prouver qu'elle pouvait être une aussi bonne religieuse que les autres. Mais typique de l'époque, n'oubliez pas qu'on est en 1500 quelque chose, elle a pratiqué des pénitences intempestives, elle a porté continuellement un cilice, hein, cette espèce de chemise de crin qui blesse un peu la peau. Elle avait même cousu à l'intérieur de sa robe, dit-on, quelques épines qui la torturaient à chaque mouvement. Faut bien se mettre dans l'esprit du temps. Hein. Aujourd'hui, on n'imagine pas ça, mais c'était dans l'esprit du temps. et elle jeûnait très souvent au pain et à l'eau. Elle passait la plus grande partie de la nuit, dit-on, en veille et en prière. Je reviens sur ces pratiques pénitentielles. Je me souviens, j'ai voulu, moi, rentrer dans un monastère en 1950, à la Pierre-qui-Vire. Bon, très connu, le monastère de la Pierre-qui-Vire. J'ai fait un séjour de simplement 11 jours à l'hôtellerie. Je ne suis même pas rentré. Parce que c'était pas possible, c'était tellement froid. Vous n'avez aucune idée du froid qu'il y avait là au mois de février. Il n'y avait pas de chauffage. Les moines se promenaient avec des chandails de laine noire qui disparaissaient parce qu'ils portaient des vêtements noirs, hein, les bénédictins. Ils portaient souvent des gants avec des trous pour laisser leurs doigts sortir pour pouvoir tourner les pages de leur livre de prière. Ils vivaient dans le grand froid. Moi, j'ai eu tellement froid, j'ai eu les os glacés. Alors, c'était comme ça jusqu'en 1950, faut pas se surprendre, donc. Elle avait coutume, Sainte Rita, de consacrer à la méditation de la passion de Jésus le temps qui s'écoulait depuis minuit jusqu'au lever du soleil. Ce sont des exagérations qui nous semblent absolument intempestives, mais on les retrouve chez bien des saints qui dormaient très peu, hein, très très peu. Elle s'unissait, dit-on, si vivement aux souffrances de Jésus-Christ, un peu comme Thérèse d'Avila, la grande mystique, la plus grande mystique de l'histoire. Eh bien, elle pleurait sur les souffrances de Jésus, et on la retrouvait parfois comme perdue, comme si elle elle était en extase, hein. Et alors un jour, après avoir entendu un sermon sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, prononcé par le bienheureux Jacques de la Marche, c'est un saint qui était très réputé à l'époque, elle a demandé à notre Seigneur de lui permettre de participer à ses souffrances. Encore une fois, on va se dire, c'est un peu surprenant, pourtant, est morte au début des années 80 en France, une sainte qui n'avait jamais mangé depuis 50 ans. Ni bu, et qui était réputée, elle a été très connue dans la région de Lyon, Marthe Robin, très très réputée. Des vies ont été écrites à son sujet, des médecins, des savants se sont penchés sur son cas. Dans le sud de la France, près de Lyon, c'est une ville sérieuse, Lyon a envoyé une quantité d'observateurs autour de Marthe Robin. Eh bien, elle participait, elle aussi, aux souffrances de la Passion de Jésus-Christ. C'est que, à travers les souffrances acceptées, avec sérénité et avec amour. L'amour est fondamental, naît au creux de l'âme de quelqu'un une union avec le cœur tremblant d'amour de Jésus. Et alors, elle a senti, Sainte Rita, à ses tempes, la pointe ou les pointes d'une couronne d'épines. Son front, tout à coup, fut marqué d'une plaie qu'elle portait tout le reste de sa vie. Cette blessure profonde et douloureuse lui a occasionné de nombreuses humiliations, hein, parce que, chose étrange, il s'en dégageait à l'occasion une odeur un peu fétide, un peu étrange, et elle devait donc s'isoler. Et ça créait bien des problèmes dans le monastère, hein. Alors elle s'adonnait davantage à la prière, isolée qu'elle était. Et sa patience dans cet état aussi douloureux qu'humiliant, elle l'a rendue de plus en plus, on peut dire, agréable. La patience, hein? La patience, c'est une des grandes vertus des saints. Et ça lui a permis tout à coup d'accéder à un monde très étrange, c'est le monde des miracles. On le retrouve même de nos jours, hein? On en reparlera avec, vous en reparlerez un jour même avec Mère Teresa, hein? Le miracle étonnant dont j'ai été témoin. Et alors, une femme de Cachia, de cette ville, était venue lui demander des prières en faveur de sa fille, puis quand elle est allée chez elle, elle a trouvé son enfant guéri. Alors ce miracle extraordinaire là-bas, parce qu'elle était connue, et l'enfant était connu par toute la ville, alors on a obtenu d'autres miracles, un peu comme le père Pio de nos jours au XXe siècle, et le frère André aussi, il y a eu des miracles sérieux autour du frère André. Et alors, ça l'a rendu célèbre, cette pauvre sœur cloîtrée, dans toute la région, et ce pauvre Sainte Rita avait de nombreuses visites, même qui venaient de très loin, puis elle recevait tous ces gens avec beaucoup de charité. Puis nul ne s'en retournait sans avoir été consolé, édifié. Finalement, elle a eu une maladie qui a duré 4 ans, puis elle a senti qu'elle allait mourir. Alors elle a demandé les derniers sacrements, puis après les avoir reçus, Sainte Rita a exhorté ses sœurs à être très observants vis-à-vis de la règle. C'est curieux comme les saints demandent toujours l'observance de la règle. C'est curieux, on y attache maintenant si peu d'importance, la règle n'existe presque plus dans bien des maisons religieuses, et pourtant les saints y reviennent. Et ayant mis ses mains en croix, puis l'abbesse lui ayant donné sa bénédiction, l'abbesse, n'est-ce pas, c'est la supérieure, une abbaye à une abbesse ou un abbé, hein. Puis l'abbesse donc lui a donné sa bénédiction, puis elle s'est endormie doucement. Et c'était ça le 22 mai 1457. Et le lendemain de sa mort, bien, on a exposé le corps de Sainte Rita dans l'église du couvent. Tous les habitants de la ville des alentours sont accourus pour vénérer cette femme fantastique. On reconnaissait vraiment ses mérites, et alors au nombre des visiteurs est apparue une de ses parentes qui avait le bras desséché, puis dans sa grande émotion, cette parente s'est jetée en pleurant sur la tombe de sa cousine, et aussitôt elle a senti renaître dans son bras paralysé la vie. Son bras était guéri instantanément, alors des cris de joie ont divulgué aussitôt les miracles. Ça peut sembler curieux, mais je sais qu'il y a des miracles similaires qui se sont déroulés à Lourdes et qui ont été observés par des savants. Il y a des livres très sérieux qui sont publiés sur ces questions-là au XXe siècle. C'est pas rien que des questions du Moyen-Âge, hein, ou des siècles passés. Alors, plusieurs miracles se sont produits comme ça à son tombeau, et le pape l'a déclarée bienheureuse le 16 juillet 1627, donc 70 ans après sa mort. Elle a été l'objet d'une dévotion populaire sans comparaison, sauf peut-être pour Saint-Antoine de Padoue. Et sans attendre sa canonisation, bien, il a été permis de lui dédier une église à Rome, ce qui était très très rare, et surtout au pied du Capitole, tout au centre de Rome. Et vers la fin de son procès de canonisation, bien, Léon XIII, au siècle dernier, a accepté qu'on procède en même temps à l'approbation des miracles. On a fait des études sérieuses, on pouvait le faire à la fin du 19e siècle, il n'y a aucun doute. Elle a été canonisée, donc, au tout début de ce siècle, le 24 mai 1900, jour de l'Ascension, en même temps que Saint Jean-Baptiste de La Salle, le grand Saint Jean-Baptiste de La Salle, dont il a été question la semaine dernière. Et maintenant, nous allons passer à une autre sainte, Sainte Jeanne Anti de Tourelle. Elle n'est pas connue ici au Québec, c'est une inconnue. Mais elle est assez connue en France. Elle est morte en 1826. Elle a fondé des Sœurs de la Charité après la Révolution française. Elle est donc morte en 1826, elle qui était née dans le diocèse de Besançon, à Sancy-le-Long, en France, hein? Le 27 novembre 1765. Elle était la cinquième enfant d'une famille très pauvre, très ordinaire, où il y avait eu 9 enfants. Et puis elle était de santé plutôt assez frêle, comme sa mère. Elle a grandi dans un milieu pauvre, donc un milieu sans soleil, un milieu où on ne pense qu'au travail, au devoir. C'est une vie très difficile. Il n'y a presque pas d'affection. Le foyer est administré plus ou moins par une tante, qu'on appelle tante Oudette. C'est une sœur de son père, Jean-François Touret, T-H-O-U-R-E-T. Et lui, bien, il dirige une tannerie, une petite tannerie. Ça le retient très souvent dehors de la maison. Il s'occupe des peaux de bêtes. Et Jeanne Antide, elle fréquente peu l'école. Elle vit auprès de ses moutons, elle est bergère, et la solitude favorise son goût pour la prière, puis son désir du ciel, et petit à petit elle éprouve une espèce de mépris du monde. Alors au retour des champs, son principal souci, après avoir, on peut dire rangé si on veut les troupeaux, mais c'était de consoler puis de soigner sa pauvre mère. Puis, elle s'occupait de la maison de plus en plus. Et tout à coup, en 1781, mon Dieu, elle n'a que même pas 16 ans. Elle a 15 ans. Sa mère meurt. Alors, la petite Jeanne Antide Touret devient la maîtresse de la maison. C'est dire qu'il y a 12 ou 15 personnes à nourrir, du travail à distribuer, à contrôler, les habits qu'il faut tisser à cette époque. Hein. Tout ça, ça constitue une lourde charge, mais elle travaille avec beaucoup d'intelligence. Elle a une espèce de sens pratique, puis elle est généreuse. Hein. Alors, elle passe tout de suite très jeune pour un modèle adapté à la condition des jeunes filles qui, de nos jours, éprouvent souvent des tas de difficultés dans des tas de foyers d'un bout à l'autre du monde où elles ont des responsabilités énormes dès l'âge de 15 ans. Je me souviens, moi, mon frère aîné a perdu sa femme. Il avait des enfants de 16 ans à 5 ans. C'est dire que les aînés ont pris des responsabilités énormes tout de suite au foyer. Ça existe partout. Alors l'exactitude, puis l'ordre, la recherche, puis la note joyeuse et, ou agréable, elle savait toujours maintenir ça dans le foyer. Elle avait un sens constant de la joie aussi dans la maison. Puis avec sa tante, qui n'en revenait pas, elle trouvait le moyen de faire des aumônes. Et puis le temps même de un petit peu de prier. Alors, ça l'a invité petit à petit, son sens commun, à ménager ses forces. Elle n'était jamais fiévreuse, jamais énervée. Elle savait vraiment ne jamais se surmener. Il lui suffisait, au fond, comme maîtresse de la maison, de faire tout ce qui devait être fait, un point c'est tout. On raconte qu'un jour, une aide ménagère qui était venue pour l'aider un peu et qui avait des tendances un peu curieuses a essayé de l'entraîner à faire l'amour. Elle a résisté et par scrupule, elle n'a pas osé en parler à son père de crainte de lui faire de la peine. Et puis, elle a révélé les choses quand la servante est partie et a été renvoyée quelque temps plus tard. Elle a senti de plus en plus, à cause de cet incident curieux, naître en elle une espèce d'horreur du péché du monde. Et elle s'est vouée en secret à Dieu. Et elle a ressenti jusqu'au très fond de son être la beauté d'une vie qui serait tout entière consacrée au service divin. Mais sa marraine lui a dit, « Jean Nantier, vous êtes beaucoup trop jeune. » Puis votre pauvreté ne vous permettrait pas d'entrer en religion, vous pourriez pas apporter de dos, ou de dot, comme on dit. Et alors, il y avait un troisième motif, aussi c'était les obligations familiales, elle avait des responsabilités, mais heureusement, l'armée du roi a recruté deux de ses frères, ses frères aînés, ça faisait déjà deux bouches de moins à nourrir. Et puis, tante Oudette, là, elle devenait de meilleur caractère, et puis elle a pu prendre la direction du ménage, alors c'était la liberté. Et là, le curé de la petite ville de Sancy, où elle était née, s'est occupé d'initier Jeanne à faire partie, si on peut dire, d'une espèce de comité de paroisse, de pastoral, si on veut. Elle s'est mise à s'occuper des services paroissiaux, ce qui est assez étonnant pour une femme à l'époque. Puis, elle est devenue sacristine, elle s'est occupée d'attirer les enfants, de les préparer à toutes sortes de choses, le service de la messe, et puis elle s'est mise à enseigner même la religion et être catéchiste. Et alors, en juillet 87, à la veille de la Révolution, elle a hésité entre les carmélites ou un ordre qui s'occupait des pauvres. Et puis, elle s'est dirigée sur l'hôpital de Langres, où les filles de la charité l'ont accueillie. Ils ont éprouvé sa vocation pour voir si elle l'avait vraiment. Et le soir de la Toussaint, après ces 3 mois de postulat, ils l'ont amenée à Paris, et c'est là qu'elle est entrée dans le couvent fondé par Saint-Vincent de Paul lui-même, qui a fondé, n'est-ce pas, avec la bienheureuse Louise de Marillac, en 1641, les Sœurs de la Charité. Elle a été une novice parfaite. Et pourtant, la lingerie où on l'employait était dirigée par une de ces religieuses sévères, exigeantes, et on se demande des fois pourquoi il y a des religieuses comme ça ici et là. Ça arrive, on dirait qu'il y en a une ou deux comme ça, c'est pour sanctifier les autres, dit-on. Que Dieu les envoie. Et alors, la grosse épreuve, c'est venue de la maladie. Elle a, le cuir chevelu lui a été attaqué de pustules. C'est une question de renvoi, mais heureusement, l'anne-sœur infirmière, après que d'autres aient échoué à la guérir, l'a guérie, puis elle a pris la bille. En octobre 1788, elle est envoyée à l'hôpital de Sainte-Reine, où l'air de la Bourgogne fait beaucoup de bien, puis à Langres et à Sceaux, où elle a demandé de partir parce qu'un gentilhomme, imaginez, cherchait à l'épouser. Et là, il y a la Révolution qui n'épargnera pas les filles de la charité, et nous reviendrons à notre sainte Jeanne Antide Touret au moment de la Révolution et après. Et alors, en 1793, la Société des Sœurs de la Charité, fondée par Saint-Vincent de Paul, l'une des communautés les plus importantes de France, est dissoute. Alors, elle part à pied, en mendiant, pour regagner Besançon, où l'accueille la sœur d'une de ses compagnes, une des ses compagnes religieuses de Paris. Puis, comme pour préparer, pour réparer plutôt le scandale que donnait son frère Joachim. Elle avait un frère qui était chef local des partisans de la Convention, donc un révolutionnaire. Elle revint dans son village, puis là, elle a ouvert, quoi, une école gratuite, où elle enseigna avec zèle le catéchisme, puis elle y soignait les malades, toujours son goût de sœur hospitalière et de sœur auprès des pauvres. Elle a caché des prêtres catholiques, ce qui était extrêmement risqué. Elle leur a facilité l'exercice de leur ministère, la célébration de la messe. C'était encore plus dangereux. Elle l'a menacée de représailles, de la révéler. Et sa charité d'infirmière lui a permis à plusieurs reprises d'échapper aux poursuites parce que les gens qui auraient voulu la condamner n'osaient plus parce qu'elle était trop bonne. Et elle avait un zèle énorme pour l'enseignement religieux. Alors, il y a eu une paix relative 2 ans plus tard, en 1795, et le curé légitime avait pu rentrer dans son village de Natal, de Sancey-le-Long. Ça a permis à Jeanne de reprendre la vie religieuse en Suisse, de l'autre côté de la frontière, dans une société spéciale qui s'appelait la Retraite chrétienne, mais la fondation, ça n'a pas été pour elle l'occasion de d'autre chose que des mois extrêmement mouvementés. Et puis Jeanne a quitté cette communauté, puis près de la frontière française, en 1797, elle a rencontré des prêtres de Besançon, puis ils lui ont confié, quoi, des écoles religieuses de leur diocèse. Et alors là, un coup d'État l'a obligée temporairement à quitter toujours sa ville natale de Sancey-le-Long, où elle avait repris l'école. Puis, peu après, les révolutionnaires l'ont rappelée. Elle a répondu, « Je ne reçois aucun salaire au nom de la loi. » Vous ne pouvez exiger, et vous n'obtiendrez en tout cas de moi, au nom de la loi, aucun serment de fidélité. Elle était prête à mourir, quoi. Mais tellement bonne, cette femme, les révolutionnaires n'ont pas osé lui toucher. Et en 1799, sœur Jeanne Antide s'installe à Besançon, enfin, à 34 ans, où un prêtre lui confie une école, puis là, tout à coup, 4 jeunes filles viennent l'aider. Et c'est le début pour elle de la fondation d'un dispensaire, d'une soupe populaire, un bouillon, un peu comme on en a à Montréal, ici et là. Et le 15 octobre 1800, un vicaire général, M. de Chaffoy, préside à l'installation du nouveau noviciat des Sœurs de la Charité, qu'elle rétablit. Et Mère Touret, on l'appelle comme ça maintenant, est chargée de rédiger une règle un peu spéciale. Elle s'inspire des usages qu'elle avait suivis chez les sœurs de la Charité Saint-Vincent de Paul à Paris. Et puis le costume est un peu différent. C'est une robe grise, un tablier noir, un voile noir, un large collet blanc. Mais ça ressemble au costume des sœurs de la Charité qui était plutôt bleu, n'est-ce pas? Elles étaient très très nombreuses, les sœurs de la Charité en France, ainsi nombreuses qu'au tournant du siècle, je crois qu'elles étaient plus de 60 000 en France. C'est énorme. En 1802, donc, Le préfet de Besançon a confié aux nouvelles sœurs de la Charité, qui avaient pris pour patron Saint-Vincent-de-Paul, mais la maison de détention, une prison à Bellevaux. Elles y ont diminué les dépenses tellement elles savaient comment administrer une maison comme ça, tout en améliorant le régime des détenus. Et cette réussite a fait leur renommée partout. Ça leur a mérité le soutien financier de l'empereur Napoléon Ier. Alors, il y a eu un afflux de vocations, ça a permis des tas de fondations, et même la mère de l'empereur, la mère de Napoléon, dont on parle souvent quand on parle de Napoléon, sa vieille mère corse, très italienne, leur a ouvert l'accès au royaume de Naples. Et là, le fameux Murat leur a confié l'énorme et splendide couvent-hôpital de Regina Coeli. C'est très connu, Regina Coeli. Et après 8 ans de séjour dans l'Italie du Sud, notre mère Touret a obtenu du pape l'approbation de sa règle. Et là, les modifications que Rome y a apportées ont provoqué un peu l'hostilité du nouvel archevêque de Besançon. Il y a toujours des difficultés avec les évêques ici et là. Ça, on le voit dans la plupart des congrégations. C'est soit les évêques, soit un fondateur, soit un prêtre, soit des gens qui ont des responsabilités. Et il y a des frictions. On dirait que c'est pour créer davantage, non seulement l'humilité, mais la patience et le dévouement intégral. Alors, l'évêque interdit à la sainte de reparaître dans son diocèse. Il a fait une telle pression sur les premières compagnes de notre fondatrice que les compagnes ont refusé de la recevoir, Et seules les communautés des Sœurs de la Charité de Savoie et d'Italie, la Savoie c'était presque l'Italie, sont restées fidèles à Sainte Jeanne Antier de Touret. Alors le cœur en saignant, le cœur en marmalade, dirait-on, la pauvre Jeanne Antier a repris le chemin de Naples. Elle n'a pas pu aller mourir en France où elle aurait voulu. Elle est morte le 24 août 1826. Son corps repose dans l'église du fameux couvent-hôpital de Regina Coeli. Elle a été béatifiée le 23 mai 1926. Elle a été canonisée le 14 janvier 1934. Je vous ai raconté la vie de cette femme. C'est pour dire jusqu'à quel point, dans l'Église, il n'est pas facile de faire du bien parfois. On est empêché. Il y a des difficultés, mais c'est le caractère humain de l'Église. Mais ne nous arrêtons pas au caractère humain de l'Église. C'est le caractère divin de l'Église qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment ce que Dieu fait dans le cœur des saints et dans le cœur de ceux qui sont en communion avec lui. On a consigné les événements de la vie de Sœur Touret. C'est sa nièce, la fameuse Sœur Rosalie, qui a très réputée au siècle dernier, qui a compilé ça. Il y a aussi le père Paul Bernard, un jésuite, qui a publié un livre sur elle. En 1926, c'est un livre très très bien fait. Mais on peut dire que le récit le plus vivant, le plus intelligent au sujet de cette sainte remarquable, a été fait par le fameux chanoine Trochu, qui a écrit aussi La vie du curé d'Ars et quantité d'autres biographies de saints avec beaucoup d'intelligence. On peut consacrer d'autres ouvrages qui ont été publiés au sujet de cette sainte, mais je crois que si on veut lire la vie de sainte Jeanne Antier de Touret, il faut se référer au chanoine Trochu. Jean-Baptiste de Rossi est né à Voltaggio. C'est une petite ville du diocèse de Gênes. Gênes, vous connaissez, c'est près de la frontière de la France aujourd'hui, le long de la Méditerranée. C'est une assez jolie ville, Gênes. Alors, il est né le 22 février 1698, donc il y a près de 300 ans. Ce saint est remarquable par sa patience. J'en ai glissé un mot tout à l'heure de la patience. Mais il est encore plus remarquable pour sa charité. C'était un prêtre extraordinairement bon. Il y en a des prêtres qui sont très bons. J'en ai connu beaucoup. Il y en a partout. Il y en a dans des petits villages ici et là qui sont perdus, dont la bonté ne fait pas de bruit, parce qu'ils sont tellement bons qu'on les néglige souvent, et c'est bien dommage. Les parents de Jean-Baptiste de Rossi étaient pauvres encore. Un autre né dans la pauvreté. Il a été souvent question, depuis le début de cette série, de saints qui sont nés dans la noblesse, comme Eugène de Masnod et d'autres. Mais là, où Jean-Baptiste de La Salle, mais lui était né dans des milieux pauvres. Un Dieu les prend dans toutes les classes de la société, comme on disait autrefois, les classes de la société, si on veut, chez les gens riches, les gens pauvres, les gens nobles, les gens sans noblesse. Dieu ne fait pas de différence. Et le petit Jean-Baptiste avait de très bons parents. Les parents marquent souvent, profondément, leurs enfants. Et lui, cet enfant avait déjà une piété tout angélique, dit-on, dans son enfance. J'étais témoin de ça le dimanche. Je suis allé chez un couple qui ont deux enfants. L'aîné venait d'avoir ses 9 ans. Et le petit, qui vient d'avoir ses 5 ans, a aussi, comme son frère aîné, une piété angélique. Il va à la messe tous les jours depuis l'âge de 3 ans. Son frère aîné, qui n'a pas fait sa première communion, sait servir la messe. Mais vous savez, quand on voit ça dans des foyers modernes et normaux, mais tout à fait normaux, on se dit, les parents peuvent avoir une influence profonde sur le plan spirituel auprès de leurs enfants. Alors, quand on le voyait servir la messe, il était remarquable. Et un noble de Gênes, qui était de passage dans cette petite ville voisine de Gênes, Voltaggio, eh bien, il était édifié. Alors, il a proposé à son père, qui était très pauvre, de se charger de son éducation. Alors, le petit Jean-Baptiste de Rossi s'est rendu donc à Gênes. Il était page dans cette famille noble. N'oubliez pas, on est à la fin du 18e siècle. Et puis, ou plutôt au début du 18e siècle. Et bien alors là, il va à Gênes et puis il aboutit à Rome chez son cousin, dont Laurent de Rossi, qui était chanoine de Santa Maria in Cosmedine, c'est une des plus belles églises de Rome. Que c'est beau, Santa Maria in Cosmedine. Alors, il était chanoine. Chanoine, c'est quelqu'un qui chante l'office, un peu comme un moine, pour garder l'esprit de prière et les offices qui sont célébrés du matin au soir dans les grandes cathédrales ou les églises importantes. Ça se pratique encore un peu de nos jours. Hein? Puis alors, il a fait finalement des études au collège romain. Ses maîtres, ses camarades ont cru voir en lui de sa jeunesse un autre Saint Louis de Gonzague, qui s'était d'ailleurs sanctifié dans cette même maison, ce collège romain. Et puis, il était humble et pieux. Et lui, il voyait pas qu'on l'admirait. Il était très simple. Hein? Et il disait qu'il se forçait à imiter les autres plutôt parce qu'il voyait qu'il y avait des condisciples qui avaient de grandes qualités, puis il essayait de faire comme eux. Puis là, son père est mort. Il n'avait que 16 ans. Il est resté, lui, le seul appui de sa mère et de ses sœurs. Alors, on se demandait s'il ne devait pas retourner à la maison. Il a fait des études de droit grâce à son cousin, le chanoine. Et puis, il les a arrêtés. Ça aurait pu lui apporter de la richesse, mais il s'est senti appelé au sacerdoce. Puis finalement, il a tout sacrifié ses espérances. Il s'est consacré uniquement à la gloire de Dieu, disait-il, puis au salut des âmes, c'est-à-dire leur enseigner quoi? Le vrai bonheur, hein? Le salut des âmes, des fois on se demande ce que ça veut dire. C'est d'enseigner le vrai bonheur. Comment être heureux ici-bas, hein? Avec Dieu. Alors il en a averti sa famille, puis sa mère a accepté généreusement ce sacrifice. Et puis elle a donné son consentement pour qu'il devienne prêtre, et alors il a reçu la soutane, n'est-ce pas? Il a commencé ses études en théologie, puis dans sa grande ferveur, il a ajouté, là, comme on voit chez bien des futurs saints, l'aberration des mortifications excessives, toujours, hein, c'est curieux, ça. Alors, il a senti la fatigue, évidemment, hein, et il n'a pas été prudent. Ses forces l'ont abandonné. Pourtant, Dieu ne demande rien comme ça. Hein. Et un jour, il assistait à la messe dans la fameuse église de Saint-Ignace. Si jamais vous allez à Rome, allez là, c'est une église baroque jésuite fantastique où est enterré Saint-Ignace. Il y a son tombeau, là, c'est fabuleux à voir, hein, le plafond est de toute beauté. Puis il est tombé, Jean-Baptiste de Rossi, il est tombé évanoui, alors il y a eu des soins finalement, on a réussi à le guérir un peu. Mais on peut dire que ça a engendré chez lui, ces excès-là, une longue suite de souffrances, et puis les études lui devenaient de plus en plus difficiles. Comme quoi, les saints sont pas toujours très sages quand ils sont jeunes. C'est avec l'âge qu'ils finissent par comprendre que c'est l'amour qui transforme les cœurs et non pas des mortifications excessives. Il est obligé de quitter le fameux collège romain, et puis il est devenu simple auditeur des cours donnés par les dominicains à la Minerve. Mais il a vu dans cette épreuve, chose curieuse, une espèce d'attention de Dieu. C'est pas bête de voir ça comme ça. Pour le détourner de l'orgueil des sciences parce qu'il était très attaché à l'étude où il était brillant. Et finalement, il n'est jamais devenu un érudit. Et ça l'a conduit à exercer son ministère de façon fantastique. Il était ordonné à 23 ans à peine. Hein. On ordonnait à 22, 23, 24 ans. Même quand j'étais jeune, on ordonnait beaucoup de prêtres à Montréal à 23 ans. C'était une dispense parce qu'il fallait être ordonné à 24 ans. Que c'est jeune, hein. Et alors donc, à 23 ans, le 8 mars 1721, il est prêtre. Il s'engage par vœu à ne jamais accepter un bénéfice, c'est-à-dire une espèce de dignité ecclésiastique qui lui aurait rapporté de l'argent. À moins d'y être contraint par obéissance, dit-il, et toute sa vie, il a conservé cet amour de l'humilité et de la pauvreté. Et son premier soin, ça a été de modeler sa vie sur tous les décrets qui avaient été énoncés au Concile de Trente, et les décrets qui étaient relatifs à la vie puis aux mœurs des prêtres. Il a lu, il l'a mis en pratique, il s'est appliqué assidûment à la pratique de la prière, de l'oraison. Jamais il ne ratait la récitation de ce qu'on appelle son bréviaire. Si vous voulez, les offices qui sont semblables à ceux qui sont récités dans les monastères. Hein. Et son humilité, ses infirmités, ses maladies l'ont porté à s'éloigner des emplois les plus brillants. Il recherchait, dit-on, la compagnie des plus pauvres, la compagnie des ignorants. Mon Dieu, qu'on fuit les ignorants. Hein. Lui, il les recherchait. Il recherchait ceux que tout le monde fuit. Il disait, c'est là mon peuple. Mon peuple. Il allait dans les prisons. Il visitait les criminels. Il a gagné même à sa cause le bourreau qui tuait les criminels, qui étaient condamnés à mort. Hein. Et puis, le bourreau est devenu son aide pour amener les grands criminels à se convertir. Le bourreau, avec lui, aidait les criminels à se convertir avant de mourir. Son apostolat l'a mis au contact de toutes les misères à Rome. Même les filles qui mendiaient dans Rome, hein, ils n'avaient pas d'abri dans ce temps-là, les pauvres filles, la nuit. Alors elles se prostituaient. Alors il a fondé à leur usage un refuge sous le nom de l'Hospice de Saint-Louis de Gonzague. Puis il a fondé deux autres hôpitaux, Santa Galla, la Trinité des Pèlerins. Puis son fameux cousin, là, le chanoine Laurent de Rossi, qui l'avait appelé à Rome, a insisté pour se démettre en sa faveur de son privilège de chanoine, mais Jean-Baptiste de Rossi a refusé, il a toujours refusé. Alors, à la mort de son cousin, son confesseur lui a ordonné de prendre la charge, puis de devenir chanoine de Santa Maria in Cosmedine, de Sainte Marie in Cosmedine. Et alors, il n'a jamais voulu habiter la maison très riche de son cousin. Il l'a vendue, puis a tout donné l'argent aux pauvres. Il s'est contenté d'un pauvre logis de rien du tout. Mais chanoine de Sainte Marie in Cosmedine, il fallait bien que de temps en temps, il participe aux offices, hein, puis laisse ses pauvres. Il a développé une très grande dévotion à la Sainte Vierge et s'est attiré le peuple romain aux fêtes qu'il célébrait en l'honneur de la Vierge. Et puis finalement, les chanoines, voyant sa grande dévotion à la Vierge, ont décidé d'ajouter à leur prière les litanies de la Sainte Vierge. C'est pas très long, les litanies de la Sainte Vierge. Je me souviens au collège Brébeuf, chaque semaine, on chantait ça. On chantait en latin, même, les litanies de la Sainte Vierge. Je m'en souviens sur un rythme presque endiablé que les jésuites nous enseignaient, et c'était bien sympathique. Mais je vous rappelle certains passages des litanies de la Sainte Vierge. Vierge fidèle, miroir de justice, cause de notre joie, rose mystique, maison d'or. Ce sont des qualificatifs presque surréalistes. C'est poétique aussi, porte du ciel. Elle est très populaire ici au Québec et même en France maintenant sous le titre de porte du ciel. Hein? Cette icône dont on dit qu'elle suinte, mais moi je l'ai déjà vue suinter, je le dis sans gêne. Oh, ça me gêne peut-être un peu. Mais je l'ai vue, la véritable icône de Notre-Dame de la porte du ciel. Je l'ai vue suinter chez les Russes orthodoxes du boulevard Saint-Joseph. Je ne voulais pas aller la voir parce que tout ça me gênait. À l'époque, j'y suis allé, je l'ai vu. Dans les litanies, on l'appelle la Vierge aussi étoile du matin. C'est beau, étoile du matin. Salut des infirmes, refuge des pécheurs, consolatrice des affligés, secours des chrétiens. Et ensuite, on la qualifie de reine, reine des anges, reine des patriarches, reine des prophètes, reine des apôtres. Reine des martyrs, reine des confesseurs, reine des vierges, reine de tous les saints, reine du très saint rosaire, reine de la paix. Tous ces titres, c'est superbe, c'est très beau ces litanies, on ne les récite plus, et c'est bien dommage. Du moins, je n'entends pas des litanies de nos jours, je n'en ai pas entendu depuis bien longtemps. Alors après une grave maladie, ce prêtre Jean-Baptiste de Rossi a été invité à prendre sa convalescence chez un évêque qui vivait à Civita Castellana, à la campagne. Alors l'évêque l'a engagé à s'essayer au confessionnal, parce que jamais il n'avait voulu confesser les péchés, il se sentait peu capable de faire ça, ça le gênait un peu. Et ça lui a ouvert, ça, une nouvelle carrière fantastique. Les gens affluaient à ce confessionnal, et de retour à Rome, avec un zèle infatigable, il passait des heures et des heures au confessionnal. Il aimait surtout diriger les plus pauvres, les malades, les abandonnés. L'église de Santa Maria Cosmedine, où il était chanoine, n'est-ce pas, était bientôt fréquentée par une foule de pénitents. Il en venait non seulement de tous les quartiers de Rome, mais même des campagnes environnantes. Et ses prédications, qui étaient très simples, comme celles du curé d'Ars, quoi, avaient le don de toucher les cœurs, de convertir les âmes. Il a prêché des retraites dans les diocèses voisins de Rome. Ça a eu un succès énorme, et ce fut surtout dans la ville éternelle, à Rome même, que les gens ont reçu tous les bienfaits de sa parole de feu. Et son zèle s'est étendu à la direction des religieuses, et finalement, de ses confrères prêtres. Ses confrères se sont mis à l'aimer énormément, à sentir chez lui l'exemple à suivre. Et ses prédications, ainsi que se préparer au sacerdoce, ou ses retraites qu'il donnait à ses confrères prêtres, lui ont donné une heureuse influence sur le clergé de Rome, qu'on peut dire qu'il a transformé l'ensemble du clergé de la ville du pape. C'est absolument phénoménal. Saint Jean-Baptiste de Rossi a vécu les 6 dernières années de sa vie dans la douleur, dans la maladie terrible qui devenait de plus en plus forte en lui. Et puis, les dernières souffrances lui ont ouvert finalement le ciel. Le 23 mai 1764, il avait 66 ans. Il a été enterré à l'hôpital de la Trinité des Pèlerins. Et puis, c'est cet hôpital qui a dû payer les frais de ses funérailles, tant il est mort dans la pauvreté. Il a été inscrit au nombre des bienheureux par le pape Pie IX le 13 mai 1860, et il a été inscrit, comme on dit, au catalogue des saints. C'est ça que ça veut dire être canonisé. Ça veut pas dire devenir un saint. Je le rappelle à ceux qui pourraient se demander comment, dans l'Église catholique, qui sont pas catholiques et qui m'écoutent, là, canoniser quelqu'un, ça veut dire l'inscrire dans une liste de gens, de catholiques, que les autres catholiques peuvent vénérer, prier en leur demandant d'intercéder auprès de Dieu, ce non pas que le cœur de Dieu ne soit pas sensible à nos prières, mais c'est pour ne pas être seul à prier Dieu, on prie Dieu en compagnie des saints, donc il a été canonisé par Léon XIII le 8 décembre 1881.